Tamani, toute la voix du Mali.
Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 8h à Saloukouira, dans le cercle d'Ansongo, même heure sur la radio Koukia de la même localité et sur l'ensemble de nos radios partenaires. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue à la synthèse de l'actualité matinale. Voici les titres. Les journalistes Hamadou Nyalibouli, Moussa Banadiko, Olivier Dubois ou encore Birama Touré sont portés disparus dans le pays depuis des mois. C'est dans ce contexte qu'intervient ce 2 novembre la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. À Tombouctou, le niveau bas des élèves préoccupe les parents et les autorités scolaires de la ville. Les mauvaises notes à l'école restent un véritable défi dans la localité. Le paiement de la taxe des impôts fait défaut à Ansongo. Certains expliquent ce non-paiement par le contexte sécuritaire. La présentation à Mariam Maïga, la mise en onde est assurée par Mamadi Keïta. Hamadou Nyalibouli, Moussa Banadiko, Birama Touré ou encore Olivier Dubois, ces journalistes enlevés ou disparus au Mali depuis des mois et années sont toujours introuvables. Au même moment, les proches des journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés à Kidal au nord du pays, attendent toujours que justice soit rendue. C'est dans ce contexte que la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes est célébrée ce 2 novembre 2022. Le point avec Mahaman Babakunta.
Cette journée a été décrétée par l'ONU en 2013. Elle a pour but de rappeler des crimes contre les journalistes. C'est aussi une occasion pour demander aux autorités de mettre en place des mécanismes de protection pour les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Mais en 2022, les disparitions forcées, les intimidations restent encore des menaces auxquelles les professionnels des médias font face au Mali. Les journalistes et techniciens des RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, ont été assassinés il y a 9 ans à Kidal. Mais à ces jours, les auteurs de ces crimes ne sont toujours pas connus. Trois autres journalistes, Hamadou Nyalibouli, Moussa Diko, tous deux Maliens, et le Français Olivier Dubois seraient toujours entre les mains de leurs ravisseurs depuis 2020 et 2021. Par ailleurs, les enquêtes sont toujours en cours dans l'affaire du journaliste Birama Touré, porté disparu depuis le 29 janvier 2016, selon les autorités du Mali. Notons qu'entre 2006 et 2020, plus de 1200 journalistes ont été tués dans le monde et près de 9 cas sur 10 n'ont pas été élucidés, indique l'Observatoire de l'UNESCO des journalistes assassinés.
Sur le même sujet, cette année, il n'y aura pas d'activité spécifique pour la célébration de la Journée internationale de la fin de l'impunité de crimes commis contre les journalistes, regrette le président de la Maison de la Presse. Il précise que la journée sera magnifiée à travers des productions radiophoniques, des articles dans les colonnes des journaux et autres. Bandjougou Danté, président de la Maison de la Presse, au micro de Sali Sissoko.
Nous avons aujourd'hui trois confrères qui sont portés disparus. Chaque fois que l'occasion s'est présentée, nous avons attiré l'attention des plus hautes autorités du pays sur la situation de ces journalistes détenus contre leur volonté. Il est également bon de rappeler que dans des cas sensibles, nous n'avons pas accès à toutes les informations. Ceux qui sont chargés de faire des recherches dans des zones parfois difficile d'accès, dans des zones parfois où existent différents groupes armés, ne communiquent pas sur toutes les opérations qu'ils peuvent avoir en cours pour ne pas mettre en danger la vie des otages.
Rejoignez la communauté Studio Tamani en laissant vos critiques et suggestions sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. Depuis plus de 10 ans, l'école malienne est confrontée à d'énormes difficultés. À Tombouctou, les mauvaises notes à l'école constituent un véritable défi. Le niveau bas des élèves est au centre des discussions à travers la ville. Les responsables scolaires et parents d'élèves s'inquiètent de la situation. De Tombouctou, retrouvons Alouseini Faye.
Depuis plusieurs années, le niveau bas des élèves fait débat dans plusieurs milliers. Chaque année, on dénonce la faible note des élèves. Ibrahim Kader est un enseignant à Tombouctou. Il pointe du doigt le manque de suivi des élèves par les parents.
Il y a le manque de suivi des parents qui doivent aussi se rendre à l'école. Le parent doit demander « Mon enfant qui est sorti à 8 heures, est-ce qu'il est venu à l'école ?»
L'éducation des enfants se situe à 3 niveaux. en famille, à l'école et dans la rue. Si un enseignant estime le non-suivi des parents, un parent trouve que la rue aussi y est pour quelque chose.
L'influence de la rue, de l'école, l'influence de l'entourage, c'est ce qui prive nos enfants et les désoriente de leur objectif même qui est souhaité ou bien qui est attendu de nos enfants.
Les apprenants sont à l'école mais n'ont pas la même compréhension. Un élève trouve que ce sont les élèves qui sont fautifs.
Selon moi, les élèves d'aujourd'hui n'aiment pas étudier et passent leur temps à surfer sur le net, par exemple sur Facebook ou bien WhatsApp, au lieu d'apprendre les leçons et d'étudier.
Les élèves sont à la merci de la rue et de ses tentations. Cette situation n'est pas bénéfique à la jeunesse. Pourtant, un adage dit « le développement d'un pays dépend de sa jeunesse ».
Le viol sur les jeunes filles devient de plus en plus fréquent au Mali, un phénomène qui bouleverse la vie d'une femme ou fille dans la société. Cette violence basée sur le genre demeure toujours un sujet tabou. La plupart des victimes préfèrent taire leur malheur. Moussa Malé Sissoko est allé à la rencontre d'une victime.
Chata, c'est le surnom que nous avons donné à cette jeune fille. Elle a 35 ans aujourd'hui. Très jeune à l'époque, elle affirme avoir été violée par un proche parent de la famille. En sanglots, Chata raconte son calvaire. La victime du viol dit avoir peur de dénoncer son bourreau.
Il y avait un cousin éloigné du quartier qui a abusé de moi. Je me considérais comme une adulte. Ma famille, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? À me dire, tu veux vraiment en finir avec notre famille. Si j'étais venu parler de ça en famille, ils allaient trouver un terrain d'entente.
Le sociologue Brema Eli Diko déplore que le viol soit considéré comme un déshonneur pour la victime et sa famille. Le sociologue estime que beaucoup cachent l'acte pour ne pas ternir l'image de la famille.
Vous savez, c'est la sexualité elle-même qui est associée à une sorte de pudeur. Donc la pudeur occasionne un certain silence coupable, poids du social, qui fait que bon, les gens ont peur de quand ils rencontrent. Donc ça, c'est le premier point. Mais le second point, c'est que peut-être que la législation doit être revue. Le jugement doit être tellement sévère, servir d'exemple pour d'autres personnes.
Drissa Traoré, psychologue au cabinet médical Djigia Souba, explique que la prise en charge psychologique des victimes est une nécessité absolue. Selon lui, culpabiliser la victime pourrait empirer son traumatisme.
Le viol est un phénomène qui rend la victime dans une situation de trauma, de détresse. Très généralement, il faut forcément la mettre dans une situation bien sécurisée et il faut la garantir la confidentialité surtout. Il faut l'écouter beaucoup et on ne la force pas. Étant dans cette situation de confort, de confiance, la victime peut s'exprimer.
Madame Bassantouré est un des substituts du procureur du tribunal de la commune 4 de Bamako. Elle précise que les auteurs de viols et d'actes pédophiles risquent 5 à 20 ans de prison et peuvent aller à la réclusion à perpétuité.
Du mois de juillet à octobre 2021, nous avons recensé à peu près 10 cas de viol, à peu près 4 cas de pédophilie. Oui, en général, c'est les parents qui viennent porter plainte accompagnés des victimes. Elles peuvent porter plainte soit à la police ou venir porter plainte au niveau du parquet. Comme ça, on oriente les dossiers et on en va devant les juges d'instruction. Ça se juge à la cour d'assises parce que c'est des faits criminels. Ici, nous ne jugeons que des faits correctionnels. Le viol est un fait criminel.
Rappelons que ce phénomène est accentué au nord et au centre du pays à cause de l'insécurité, selon des organisations humanitaires.
Autre titre de l'actualité, à Ansongo, au nord du pays, le paiement de la taxe des impôts n'existe plus. Et usagers et commerçants ne contribuent plus au trésor public. Selon certaines explications, la situation est due au contexte sécuritaire de la zone. Issoufa Moussa Touré s'est intéressé au sujet.
Depuis la crise de 2012 à Ansongo, les populations ne s'acquittent plus de leurs taxes et des impôts. Et cela n'est pas sans conséquence pour le développement du cercle. Amadou Aouna Maïga, maire de la commune, dénonce cet acte d'incivisme.
Sur l'ensemble du cercle, le paiement des taxes et des impôts trébuche. Les citoyens se replient sur eux-mêmes. L'insécurité fait que la plupart des citoyens sont tombés dans l'incivisme. Les gens ne payent pas parce que selon eux, il n'y a pas d'État.
Pourtant, les populations elles-mêmes reconnaissent que sans le paiement des taxes et des impôts, aucun développement local n'est possible. Sadou Mamadou, enseignant.
Donc c'est avec l'argent de l'impôt que les gens construisent les hôpitaux, les SOSCOM, les écoles. Donc les gens doivent vraiment sortir, demander à ce que les agents viennent pour faire leur travail.
Force est de rappeler que l'impôt reste une ressource capitale pour booster l'économie locale. et le non-paiement n'est pas sans conséquence sur les revenus locaux.
C'est la fin donc de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était à la présentation Mariam Maïga. La mise en onde est assurée par Mamadi Keita. Ne décrochez pas car juste après le magazine, vous aurez la version en Bambara avec Idrissa Sako. Le thème de notre magazine d'aujourd'hui est « Porter son enfant au dos entre tradition et modernité ». Comme vous le savez, porter un enfant au dos est une pratique ancestrale très répandue au Mali et en Afrique. Elle procure un bienfait à l'enfant et à la mère, selon des traditionnalistes. Pour des spécialistes, par contre, de la santé, porter le bébé au dos a un impact sur son épanouissement et son bien-être. Cependant, d'autres femmes choisissent des méthodes beaucoup plus modernes. Ce magazine Toutes les femmes du Mali est présentée par Fatoumata Kodjo.
Avant même d'être mère, une jeune fille a souvent déjà été initiée à porter un enfant au dos dans sa famille. Elle a probablement porté un frère ou une sœur plus jeune, un cousin ou encore une nièce. Pour avoir l'affection de l'enfant, la mère doit adopter un certain nombre de gestes, nous confie Madame Bamba Mariam Samake, une mère de famille retraitée. Elle a 8 enfants et les a tous portés sur son dos. La septuagénaire invite la nouvelle génération de mères à valoriser cette pratique ancestrale qui renforce le lien entre le bébé et sa maman.
Porter l'enfant au dos renforce les liens entre l'enfant et la mère. La chaleur qui se dégage du corps est bonne pour l'enfant. Si tu déposes l'enfant sur la poitrine, il ne peut rien sentir de toi. Les jeunes doivent savoir que nos coutumes sont très importantes pour nous. Tôt ou tard, nous reviendrons à nos traditions.
Des mamans partagent également cet avis. Pour elles, porter les bébés au dos favorise son épanouissement et son développement.
Je suis née dans cette pratique, donc je porte mon enfant au dos. Je ne suis pas une blanche, je n'achète pas des kangourous.
Moi, je porte mon enfant au dos quand j'ai la force. Cela crée un lien entre la mère et l'enfant. Certaines portent leurs enfants au dos jusqu'à 3 ou 4 années.
Si tu ne portes pas l'enfant au dos pendant un certain âge, quelques peines pourraient lui arriver. Tout le long de ma maternité, j'ai porté mon enfant au dos. On n'aime plus porter nos enfants et même les prendre. Elles ont les enfants au flanc ou les couchent sur la poitrine. Ce qui est bien, c'est de les porter au dos.
Des spécialistes de santé abordent dans le même sens. Dr Nyama Sissoko, pédiatre au district sanitaire de Kalabankoro, nous explique comment bien porter son enfant au dos.
Lorsque l'enfant est au dos, il doit être à la bonne position, l'attacher de manière à ne pas pencher sa tête et la tenir avec un vêtement. Cela est le cas des enfants qui ne peuvent pas tenir leur tête eux-mêmes et ceux qui peuvent la tenir, la mettent eux-mêmes dans la bonne position. Positionner les jambes de l'enfant de façon à former la lettre M. Si tu l'attaches, il faut bien attacher les hauts et les bas.
La pédiatre ajoute que porter son enfant au dos permet de bien réguler sa température corporelle.
L'enfant, quand il est porté au dos, cela permet de régler la température de son corps. La température ne serait ni chaud ni froid. Celui qui porte l'enfant au dos peut faire toutes ses activités de la journée. Cela favorise l'intelligence chez l'enfant. Ça renforce les liens entre le porteur et l'enfant lui-même.
Cependant, de nos jours, certaines mamans préfèrent la méthode kangourou. Pour elles, cela protège leur bébé du vent et d'autres dangers.
La méthode kangourou, c'est de poser l'enfant sur la poitrine. C'est facile, cela lui protège aussi. Car s'il est au dos, le vent ou autre chose pourrait l'atteindre sans que tu ne le saches. Alors que s'il est devant, tu peux le voir. Moi, je porte mon enfant sur l'épaule ou je le mets dans le kangourou. C'est un peu difficile de le tenir au dos. Car si tu le portes au dos, sur la moto, sa tête peut se pencher. Alors qu'avec le kangourou, il est simplement posé sur la poitrine et l'enfant est bien protégé.
Qu'une maman adopte la méthode kangourou ou porte son enfant au dos, sachez qu'un enfant bien porté est un enfant bien portant.